Le deuxième était le sol.
Transistor.
Présidence. Bienvenue à tous pour ce deuxième numéro de Présidence, votre nouvelle émission sur les ondes de Transistor, pour suivre autrement la campagne présidentielle, loin des vaines polémiques et du jeu politicien. Après le numéro spécial consacré au débat d'Arnaud Montebourg, organisé par Terra Nova, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter toute l'équipe qui va vous accompagner dans le marathon déjà lancé vers l'élection présidentielle, ligne d'arrivée les 22 avril et 6 mai 2012. Tout d'abord, Amos Reichmann.
Bonjour.
Pour rester informé grâce à son carnet de campagne incisif. Ensuite, Antoine Jaya.
Bonjour à tous.
Pour rire et sourire avec son billet d'humour et d'humeur. Enfin, Jérôme Bastic.
Bonjour à tous.
Qui anime avec moi l'interview centrale de Présidence. En effet, dans Présidence, nous prenons le temps de nous arrêter sur un sujet de fond et de société en compagnie d'un expert. Aujourd'hui, nous parlerons d'éducation avec Philippe Mérieux, professeur en sciences de l'éducation à Lyon 2 et président du Parlement d'Europe Écologie Les Verts. Présidence, c'est aussi le choix de croiser les perspectives et c'est pourquoi, à chaque émission, nous aurons l'intervention d'un économiste. Cette semaine, Aurélien Ekem, qui analysera les liens entre croissance et éducation. L'éducation, un thème au cœur de l'actualité puisqu'en effet, mercredi 5 octobre, lors du dernier débat avant le premier tour des primaires socialistes, tous les candidats ont, lors de la dernière partie, longuement pointé du doigt les carences du système éducatif français et proposé des mesures pour y remédier. À l'heure où un sondage Ipsos révèle que 64% des Français estiment que l'école fonctionne mal et que 54% jugent que l'école en France fait moins bien qu'ailleurs. Mais pour savoir ce qui s'est passé d'autre dans la sphère politique ces dernières semaines, rien de mieux que le carnet de campagne d'Amos.
Ensemble, tout devient possible. Slogan d'une lointaine campagne, d'un temps que les Français victimes de la crise ne peuvent plus connaître. Pourtant, depuis le dimanche 25 septembre, la gauche s'imagine que tout est devenu possible pour elle. Une improbable victoire au sénatorial, un bel inconnu prénommé Jean-Pierre président du Sénat, et par là même second personnage de l'État, Martine Aubry et François Hollande qui s'embrassent dans le palais du Luxembourg. La dynamique automnale est à la gauche. Mais de l'automne 2011 au printemps 2012, il est un long hiver à traverser, des mois serrés, tendus, où toutes les énergies s'apprêtent à se déployer, où tous les coups seront permis. « La bataille commence », a déclaré le Premier ministre François Fillon, au soir du basculement historique du Sénat. « Nous y sommes. La campagne est ouverte. Les guerres sont déclarées. » La lutte qui occupe l'espace médiatique du moment est celle des socialistes. L'ovni politique primaire traverse le ciel de l'Hexagone, entre débats cordiaux et campagnes de terrain. En haut de l'affiche, un ancien premier secrétaire, connu pour ses molles synthèses et ses défaites à répétition. La normalité eût voulu qu'il perde. Mais plus rien n'est normal à l'heure de l'échéance suprême. Dominique Strauss-Kahn dans de mauvais draps, et voilà le député de Corrèze propulsé favori des sondages. Son credo, c'est la jeunesse. Son moyen pour que tout devienne possible, le contrat de génération. Histoire d'assurer l'arrivée des jeunes sur le marché du travail en préservant l'emploi des plus vieux, d'injecter la solidarité dans la lutte des âges. Bref, de toucher les plus jeunes comme les plus vieux. Pourtant, en Hollande, il n'est ni jeune ni vieux, ni vraiment de gauche, ni vraiment de droite, soutenu par Jacques Chirac comme par Robert Hue. Il est en fait l'image de l'extraordinaire normalité d'un pays sorti de l'histoire. Mais Hollande n'est pas encore le candidat de la gauche réunie. Une maire de Lille, perdue au milieu d'une campagne à laquelle elle ne voulait pas participer. Une ancienne candidate, ancienne campagne de François Hollande, totalement à l'ouest du parti. Deux femmes qui font campagne, l'une contre l'autre, chacune contre Hollande. Puis il y a les plus jeunes, l'avocat de la démondialisation, Arnaud Montebourg, qui apparaît comme l'homme de gauche du parti. Et puis celui qui veut fermer la France, pardon, la faire aimer, spécialiste des lapsus et de la sécurité au PS. J'ai nommé Manuel Valls. Tout ce beau monde, c'est la galaxie socialiste, en ordre de bataille, qui s'affronte cordialement, chacun rêvant d'un beau ministère pour le prochain printemps. J'oubliais le brave Baylet, aussi riche que chantant. donnant un radical folklore à des débats certes critiquables, mais qui ont le mérite d'exister, ce qui est déjà un avantage. Car en face, on peut se demander ce qui existe. Coppée les dents longues dit que la défaite du Sénat, c'est la faute de Xavier Bertrand, ancien secrétaire général de l'UMP. En même temps, il dit que cette défaite, ce n'est pas très grave. Mais François Fillon, lui, qui n'aime vraiment pas M. Copé, il dit que cette défaite, elle est très grave. Le président, lui, il se tait. Enfin, lors d'un petit déjeuner avec les élus de la majorité, il aurait susurré à ses camarades UMPistes « On perdra dans la dignité. » La présidence du Sénat, évidemment. Critiqué sur sa gauche, sur sa droite, en son centre, Nicolas Sarkozy n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. L'hyper-président est pourtant plus que jamais en campagne. À 56 ans, il ne s'imagine pas tout arrêter. Il veut continuer et repartir pour 5 ans. Alors, il erre, quelque part entre Benghazi et Erevan, défendant sa politique internationale, ses guerres victorieuses. En attendant l'enfant du miracle, celui que la belle Carla doit faire naître, nouvel espoir pour la France, pour lancer l'impossible campagne de l'éternel candidat. Mais n'acceptant pas de miser leur siège de député sur la couche d'un enfant à naître, certains députés UMP commencent à faire entendre leur petite voix critique. Et si ce n'était pas lui? Même le grand-père Juppé se prend à rêver d'une improbable candidature, s'imaginant le recours gaullien d'une France dévastée. Quant à la sage lueur tactique de Jean-Louis Borloo, elle ne fait qu'apparaître les éternelles têtes de l'hydre centriste, Bayrou et Morin, les nouveaux mousquetaires de la défaite promise. Ah, douce France, ah, cher pays de mon enfance, ces batailles de coqs ne font que renforcer la bleue marine, celle qui se dit favorable à la peine de mort, nuancée sur l'avortement, celle qui veut que nous sortions de l'euro et dont la prose infeste nos oreilles des plus nauséabondes vapeurs. La fille de son père, la marine nationale, ralliée de toutes parts par les avocats et les énarques, protégée par une garde rapprochée en qui elle peut avoir toute confiance, Marie est témoin de mariage comme principaux conseillers. C'est pour elle que tout semble devenir possible. Et puis ses affaires, les mallettes de la droite, les amis de Sarkozy, la PJ lyonnaise cocaïnée, l'ignoble sentiment du tous pourri. Autant d'engrais pour la candidate frontiste. Silencieuse ces dernières semaines, elle n'en demeure pas moins le spectre de la campagne, celle qui hante et conditionne les stratégies des autres partis, qui parient sur d'hypothétiques 21 avril, à l'envers, à l'endroit. Mais Dieu soit loué! La présidente du parti chrétien-démocrate, Christine Boutin, a déclaré dans Paris Match « J'aime être nue ». C'est sûr, en Sarkozy, tout est devenu possible. Quant à Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste, il est en pleine négociation avec son usine, First Aquitaine Industries, afin d'obtenir un temps partiel qui lui laisserait la possibilité de mener sa campagne. En somme, négocier avec une entreprise le droit de faire de la politique. Ainsi va la France, ainsi va la campagne.
Oui, ainsi va la campagne. Pas si loin des débats de coq dont tu parles, Amos, un thème de fond qui anime bien des débats, l'éducation en France, et pour cela, un invité, Philippe Mérieux.
Philippe Mérieux, bonjour.
Bonjour.
Philippe Mérieux, vous êtes engagé en politique au sein d'Europe Écologie Les Verts. Lors des élections régionales de l'année dernière, vous avez été la tête de la liste écologique pour la région Rhône-Alpes, dont vous êtes actuellement vice-président aux côtés du socialiste Jean-Jacques Kerrade. Vous êtes également président du Parlement d'Europe Écologie Les Verts. Mais vous êtes surtout, et c'est la principale raison de cet entretien, professeur en sciences de l'éducation à l'Université Louis Lumière, Lyon 2. Vous avez aussi été chargé par Claude Allègre, alors ministre de l'Éducation nationale, de la présidence d'un comité qui a abouti à une réforme du lycée. Vous avez dirigé l'Institut national de la recherche pédagogique de 1998 à 2000, puis l'IUFM de l'Académie de Lyon jusqu'en 2006. Vous avez par ailleurs écrit de nombreux ouvrages relatifs aux questions d'éducation, dont nous pouvons citer parmi les plus récents « Faire l'école, faire la classe »,« Lettre à un jeune professeur », « Deux voix pour une école », qui est un entretien avec Xavier Dercos, et vous venez de publier « L'école et son miroir » aux éditions Jacob Duvernay, un entretien avec Jean-Bertrand Pontalis, où vous abordez les défis engendrés par les mutations de l'école en France, les missions de l'enseignant, mais aussi les répercussions psychologiques du système éducatif dans la vie du futur citoyen. C'est justement à la situation actuelle de l'éducation nationale que nous allons aujourd'hui nous intéresser au cours de notre entretien, une situation préoccupante à plusieurs égards, Thomas.
Oui. Sur le tableau noir de l'éducation bleu-blanc-rouge, une multitude de chiffres. Au centre est souligné de deux traits, 64%. Il s'agit du pourcentage des Français qui estiment que l'école fonctionne mal, selon un sondage Ipsos Logica Business Consulting pour le magazine L'Histoire et publié dans le hors-série de septembre de L'Histoire et Marianne. Non loin de là, deux pourcentages qui se font face, 28,8%, entre parenthèses, gouvernement, et plus de 50%, entre parenthèses, syndicat. Il s'agit du taux de grève pour la journée du 27 septembre 2011 et sa mobilisation historique puisque cinq fédérations de l'enseignement privé s'y étaient associées, ralliement plus vu dans cette ampleur depuis 1984. Mais derrière ces chiffres, des visages. Ceux des 3 millions de jeunes qui ont quitté l'école sans diplôme depuis les années 1990. Ceux des professeurs qui voient leurs conditions de travail se dégrader au fil des ans. Ceux des PES, les professeurs des écoles stagiaires dont on abrège le nom comme la formation. Des visages et une voix, celle du vieux sage, ancien ministre de l'Éducation nationale en 1992 et 93, puis de 2000 à 2002, l'éternel gardien de tous les temples et surtout du sien, Jack Lang, qui déclare « Ce gouvernement n'aime pas l'école ». 60 000 postes ont en effet été supprimés dans l'Éducation nationale entre les budgets de 2008 et 2012, et ce, malgré l'arrivée de 60 000 élèves supplémentaires lors de la rentrée de septembre 2011. 14 000 suppressions de postes sont prévues pour 2012. Mais l'UMP et le gouvernement aiment l'école et n'en finissent pas de déplorer la crise qu'elles traversent, semblant oublier au passage leur large part de responsabilité. Alors, le ministre de l'Éducation nationale, Luc Chatel, a annoncé le 1er septembre 2011 des mesures pour régler les problèmes. Un plan de prévention de l'illettrisme pour remettre la grammaire, l'orthographe et le vocabulaire au cœur des enseignements dès la maternelle et jusqu'à la fin du collège. Des internats d'excellence également, auxquels il consacrera 500 millions d'euros cette année et qui accueilleront en 2012 les 10 300 meilleurs élèves des ZEP. Et enfin, un plan d'orientation active pour les lycéens. Face à cela, le projet socialiste annonce un nouveau pacte éducatif, priorité à la réussite dans le primaire, refonte des rythmes scolaires et des programmes, amélioration de l'encadrement et revalorisation du métier d'enseignement. François Hollande va même jusqu'à proposer l'embauche de 60 000 professeurs dès la rentrée 2012, là où le Front de Gauche parle, lui, de l'arrêt nécessaire des suppressions de postes et la mise en place d'un plan de recrutement. François Bayrou parle de son côté d'une sanctuarisation des moyens alloués à l'éducation nationale, d'une redéfinition du métier d'enseignant, ainsi que d'un réaménagement des horaires et des programmes. Après ce constat, je me tourne vers vous, Philippe Mérieux. Quelle est, selon vous, la priorité absolue pour le monde de l'éducation et qu'est-ce qui distingue le projet d'Europe Écologie Les Verts des autres partis sur ce sujet ?
Vous avez fait un diagnostic assez complet de la situation de l'éducation nationale et vous voyez bien que cette situation est à la fois grave mais surtout complexe. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a un télescopage de plusieurs crises. Il y a une crise de la longue durée. Nous vivons dans un système scolaire qui globalement s'est stabilisé dans les années 60 et n'a pas beaucoup bougé depuis. Il y a une crise de civilisation qui est liée aux relations que les individus entretiennent avec leur institution. Et là, c'est l'école. On voit bien aujourd'hui que la montée du phénomène que Marcel Gaucher et d'autres philosophes appellent l'individualisme social met chacun dans une posture radicalement différente par rapport aux grandes institutions que sont la justice, la santé, mais aussi évidemment l'école, et fait qu'on a tendance à instrumentaliser ces institutions pour la réussite personnelle que l'on veut obtenir et d'avoir moins confiance dans ces institutions au plan plus général. Nous vivons une crise qui est liée à l'accélération fabuleuse des mutations technologiques. Et puis nous vivons une autre crise qui est liée à ce qu'on appelle la crise des déficits publics et la façon dont le gouvernement la gère en supprimant une partie des postes de fonctionnaires pour résorber la dette. Alors ça fait beaucoup de crises en même temps et beaucoup de crises qui, obéissant à des logiques différentes, appellent, me semble-t-il, des réponses différentes. Mais toutes ces réponses renvoient à la nécessité de refonder un peu l'école, de refonder même beaucoup l'institution scolaire, c'est-à-dire de trouver un nouveau contrat de confiance entre l'école et la nation. Alors, à Europe Écologie Les Verts, nous sommes sensibles aux propositions qui, bien évidemment, sont faites par François Hollande, par le Parti de gauche, par le Front de gauche. Nous pensons qu'il faut recréer la confiance entre l'école et les professeurs et qu'il faudra non seulement arrêter de supprimer les postes, mais en recréer du nouveau.
Est-ce que vous pensez que recréer 60 000 postes en 5 ans, c'est possible du point de vue budgétaire ?
Oui, je pense que c'est possible. C'est possible si on fait une réforme fiscale forte et si on est très volontariste dans ce domaine. La question, c'est moins est-ce possible ? Je crois que oui, que pour faire quoi ? Va-t-on avec ces postes arroser d'une manière homogène tous les établissements ou va-t-on se cibler sur un certain nombre d'établissements plus difficiles qui sont aujourd'hui en situation de grave crise. Il faudra regarder là où c'est aujourd'hui le plus fragile pour apporter cette aide, cette solidarité nationale, renvoyer un peu d'oxygène dans un corps qui étouffe, mais ça n'est pas suffisant. C'est nécessaire pour que les professeurs recroient dans l'existence d'un projet scolaire pour la nation. Il faudra aussi, je crois, libérer des énergies. C'est là où un peu on se distingue par rapport à un certain nombre d'autres projets, celui du Parti Socialiste, c'est que nous croyons qu'il faut mettre en branle des dynamiques dans le système. Il faut que les acteurs du système, les professeurs, se mobilisent autour d'objectifs forts, refonder l'école fondamentale. Nous pensons que de 6 à 16 ans, il y a 10 années absolument déterminantes dans l'évolution scolaire d'un enfant, qui sont aujourd'hui coupés par le passage de l'école primaire au collège, qu'il faut réarticuler, restructurer.
4 écoliers sur 10 passent du CM2 en 6e sans savoir correctement lire, écrire ou compter. Comment vous expliquez ce phénomène aussi grave et comment y remédier justement ?
Là aussi, il y a des causes multiples. Il y a des causes exogènes. La maîtrise de la langue n'est plus aujourd'hui une priorité sociale. On le voit bien, les gens qui écrivaient à leurs cousins ou leurs cousines de Bourgogne, aujourd'hui leur téléphone ou éventuellement leur envoient des mails dans lesquels ils corrigent assez peu ou mal l'orthographe. Ces phénomènes sociaux se conjuguent à des phénomènes endogènes liés à l'organisation même de l'école. C'est vrai que le temps passé à l'écriture, à l'orthographe, à la maîtrise de la langue écrite n'est pas suffisant à l'école primaire. Il a baissé significativement. Oui, je crois qu'il faut le remonter. Il faut repasser plus de temps sur la maîtrise de la langue écrite, plus de temps que l'on en passe aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il faut probablement sacrifier un peu de temps qui est pris ailleurs aujourd'hui, qui est passé à faire autre chose.
Quoi donc ?
On a introduit, c'est bien là le problème. On a introduit beaucoup de disciplines nouvelles. Tant qu'on a pu supprimer du catéchisme, on a supprimé du catéchisme. Puis quand il n'y a pas eu de catéchisme, plus de catéchisme à supprimer, on a quand même introduit des disciplines nouvelles. On fait de l'éducation à la santé, à l'environnement, au développement durable, d'éducation au code de la route, etc., etc. Mais chaque fois qu'on introduit ainsi des disciplines nouvelles sans en supprimer des anciennes, on est obligé de prendre du temps sur les tâches qui existaient déjà et qui étaient structurantes. Moi, je crois qu'il faut réellement remettre les choses à plat aujourd'hui et donner plus de temps à la maîtrise de la langue et plus de temps à une maîtrise de la langue exigeante autour de l'écriture longue, pas exclusivement autour du questionnaire à choix multiples et du remplissage de cases. Alors oui, il faut installer des temps de travail plus longs. Ce sera un travail long, compliqué. Je l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit, il faut redonner confiance aux professeurs en arrêtant la suppression des postes, en recréant des postes là où il n'y en a plus besoin. Il faut remettre bien sûr en place une formation sérieuse des enseignants, qui a été très largement décapitée, malmenée.
Au sujet de cette pédagogie qui n'est pas forcément bien transmise aujourd'hui aux futurs enseignants, beaucoup d'élèves de l'École normale supérieure de Lyon s'interrogent sur la nouvelle épreuve de didactique au concours de recrutement de l'éducation nationale, agir en fonctionnaire de l'État de manière éthique et responsable. Pensez-vous que cette épreuve soit le meilleur moyen de faire appréhender correctement aux candidats les enjeux de leur futur métier ?
Je pense que nous sommes là sur des questions qui ont leur importance, mais qui ne sont pas complètement au cœur du métier. Le cœur du métier, c'est la transmission. Le cœur du métier, c'est l'apprentissage. Bien sûr que c'est important d'agir en fonctionnaire de manière éthique et responsable. Personne ne dira le contraire. Mais on n'est pas n'importe quel fonctionnaire.
Vous parlez de fonctionnaires particuliers. Or, on constate chez ces fonctionnaires un sentiment d'être déboussolé, voire d'être perdu.
Oui, il y a un certain malaise aujourd'hui chez les enseignants, marqué par la chute des candidats au concours de recrutement, et surtout une recrudescence du nombre de suicides dans le corps enseignant depuis 5 ans. 39 cas par an selon l'Express, c'est-à-dire plus en moyenne que chez France Télécom. Comment expliquez-vous ce phénomène et que faire pour y remédier, selon vous ?
Je crois qu'il faut être très prudent sur cette question, il faut être très très prudent. Ce qui est clair, et là où vous avez raison, c'est que beaucoup d'enseignants se sentent abandonnés, on exige plus d'eux, alors que ça les met dans une posture difficile. Cette posture est d'autant plus difficile que les institutions elles-mêmes s'effritent. Aujourd'hui, le professeur apporte son autorité avec lui dans la classe.
Alors comment justement aider ces professeurs qui se retrouvent démunis devant leur classe?
Sur ce point, malheureusement, on sait ce qu'il faut faire. C'est aider au travail d'équipe.
Donc la collégialité, solution miracle?
Non, certainement pas solution miracle. Le travail en équipe, en tout cas, absolument nécessaire. Il faut, contre ce délitement de l'institution, que les adultes, non seulement se serrent les coudes, mais travaillent ensemble à construire du collectif d'adultes, pour structurer du collectif pour les élèves.
Très brièvement, nous aurions aimé savoir ce que vous pensez du système typiquement français des grandes écoles et des classes préparatoires. Est-ce qu'il faut le maintenir tel quel? Est-ce qu'il faut l'intégrer aux universités? Est-ce qu'il faut envisager une autre formule?
Je pense qu'il faut progressivement faire converger les grandes écoles et les universités. Alors, il ne faut pas aligner les grandes écoles sur les universités.
Alors, qu'est-ce que vous avez appelé convergence?
Il faut progressivement que le système des BTS, des DUT, des classes préparatoires grandes écoles devienne quasiment la norme dans l'université. C'est-à-dire que les premières années d'université, je dirais au moins les deux premières années, et probablement les trois premières années, deviennent des années beaucoup plus structurées, avec des groupes plus petits, mieux encadrés, et que cela se fasse sans renoncer aux exigences de l'université en matière de recherche, sans renoncer à permettre aux enseignants universitaires, comme c'est évidemment leur devoir, de s'engager dans des équipes et dans des labos de recherche.
D'accord. Alors, vos théories pédagogiques privilégient l'organisation du système éducatif autour de l'élève et de ses centres d'intérêt?
Non, autour du travail de l'élève.
Autour du travail de l'élève et l'établissement de ponts entre les grands champs disciplinaires. Que répondez-vous à ceux qui vous reprochent d'avoir contribué à un certain laxisme et à un nivellement par le bas au détriment des fondamentaux? Par exemple, Jean-Pierre Brighelli, je crois.
D'abord, je pense qu'ils ne m'ont pas lu, qu'ils m'ont mal lu ou peu lu, parce que je fais partie de ceux qui ont défendu et qui défendent l'exigence et non pas le laxisme. Quand j'ai mis en œuvre les travaux personnels encadrés, par exemple, en 98, c'est pas pour abandonner l'exigence, mais c'est pour, au contraire, être plus exigeant à l'égard des élèves en leur demandant de faire véritablement un travail approfondi et non pas simplement des travaux successifs bâclés. Je fais partie de ceux qui ont toujours considéré que dans un examen comme le baccalauréat, comme à l'université, rien n'était plus absurde que de pouvoir compenser un 8 en mathématiques par un 12 en français, parce que c'est ça vraiment au fond du laxisme. C'est entériner une espèce de stratégie de la débrouillardise au détriment d'une véritable exigence intellectuelle.
Merci Philippe Perrieux.
Présidence, c'est le choix de croiser les perspectives. Alors quand un économiste, Aurélien Ikem en l'occurrence, professeur à l'ENS, parle d'éducation, voilà ce qu'il en dit.
Dans cette chronique, j'aimerais revenir sur l'importance des dépenses d'éducation. Importance pour la croissance économique, j'entends, puisqu'elles sont également importantes pour de nombreuses autres raisons. J'aimerais aussi mettre en perspective la situation actuelle de la France et en tirer quelques conclusions. Selon les économistes, l'un des déterminants de la capacité d'un pays à faire de la croissance économique est le niveau de capital humain. Alors qu'est-ce que le capital humain? C'est un concept qui a été proposé par Gary Becker dans les années 70 pour comprendre certains choix individuels, tels que celui de se former ou de se soigner. Le capital humain d'un individu recouvre donc son niveau d'éducation, son état de santé ou encore sa maîtrise de la technologie. On voit qu'une partie, et une partie seulement, du capital humain dépend du choix des individus. Et les économistes ont montré ceci. Si on laisse le soin aux individus uniquement, donc au marché, d'accumuler le capital humain, alors le niveau collectif du capital humain est inférieur à ce qui serait souhaitable, en particulier du point de vue de la croissance économique. À ce titre, l'État doit donc intervenir pour aider les individus à accumuler du capital humain, et c'est pourquoi les économistes soulignent généralement l'importance des dépenses publiques en matière d'éducation pour un motif de croissance économique, entre autres. Venons-en aux dépenses d'éducation en France. Elles sont passées de 6,4% du PIB en 2000 à 6,1% en 2008. Cette baisse des dépenses n'atteindra ni les enseignants des cycles primaires et secondaires, ni les parents des élèves qui fréquentent ces cycles. Elle place la France juste en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, et surtout elle contraste fortement avec l'augmentation moyenne de 32% pour l'ensemble des pays de l'OCDE sur la même période de ses dépenses d'éducation. Certains affirmeront que la qualité de l'éducation prodiguée joue autant, voire plus, que les euros dépensés, et qu'il est toujours possible de faire mieux avec moins ou autant. On peut également penser que dépenses et qualité sont étroitement liées. D'autres, ou peut-être les mêmes, diront également qu'il est urgent de se désendetter et que les dépenses d'éducation ne peuvent échapper à une baisse plus générale des dépenses publiques. Pourtant, en baissant ses dépenses d'éducation, la France risque de voir baisser sa capacité future à faire de la croissance économique. Or, celle-ci est le moyen bien plus efficace de se désendetter à long terme que de baisser les dépenses publiques. Alors, de mon point de vue, cette baisse des dépenses d'éducation revient donc à se tirer une balle dans le pied pour ce qui est de la croissance économique. Alors, ce qui me semble le plus grave, c'est que ce sont nos enfants qui en auront le plus à en souffrir. Non seulement ils auront bénéficié d'une éducation de moins bonne qualité, mais ils ne profiteront pas de la croissance économique qu'ils auraient pu connaître si ces dépenses avaient été maintenues. Et enfin, puisque l'école est le meilleur moyen de réduire les inégalités, ils vivront également dans une société plus inégalitaire. Alors, selon moi, il y a deux messages qui s'imposent. Premièrement, tout endettement public n'est pas néfaste. S'il s'agit de financer des investissements d'avenir et de s'enrichir, l'endettement peut même être une excellente chose. Et deuxièmement, d'un point de vue comptable, il faut, comme cela se fait aux États-Unis, considérer les montants alloués à l'éducation comme de l'investissement en capital humain et non comme des dépenses. Et ça, ça permettrait à nos hommes politiques et en particulier au prochain président de la République qui sera élu en mai de 2012, d'expliquer pourquoi les dépenses d'éducation en tant qu'investissement d'avenir doivent absolument être sanctuarisées, voire augmentées de manière significative.
Merci beaucoup à vous deux, Philippe Mérieux et Aurélien Ekem.
Alors pour aller plus loin sur le thème de l'éducation, je vous conseille deux livres, celui de Philippe Mérieux donc, « L'école et son miroir », celui de Jack Lang également, « Pourquoi ce vandalisme d'État contre l'école », « Lettre au président de la République » et puis un magazine déjà cité, le hors-série de septembre-octobre de Marianne et l'histoire.
Si Président s'intéresse à des sujets de fond, comme nous venons de le faire sur l'éducation avec Philippe Mérieux et la participation d'Aurélien Ekem, Président est là aussi pour sonner l'alerte rouge sur tous les coups bas, manipulations, contre-vérités, polémiques et petits travers de nos hommes politiques. C'est la rubrique Alerte rouge. On connaissait l'affaire Karachi. Les mallettes de billets qui auraient alimenté les comptes de campagne d'Edouard Balladur en 1995. Mais une affaire aux conséquences bien plus graves a bien failli bouleverser le paysage politique français. En effet, l'ovni des primaires socialistes, Jean-Michel Bailey, lui aussi s'est vu proposer une mallette de billets, mais l'a aussitôt refusée. Quelle morale, quelle vertu! C'est un tel personnage incorruptible qui aurait mérité de remporter les primaires socialistes. Au fait... Pourquoi lui proposait-on une valise pleine de billets? Comme rétro-commission dans un contrat pétrolier? Pour étouffer une affaire de corruption? Non, en tant que président du Conseil Général pour une maison de retraite. Oui, Bailey c'est plus les bidochons que les incorruptibles. Alors qu'il décorait de la Légion d'honneur la psychanalyste Julia Kristeva, Nicolas Sarkozy a fait référence à un certain Roland Barthès. Mais avec qui le chef de l'État a-t-il confondu le sémiologue Roland Barthes? Avec Fabien Barthez ou avec Yann Barthez du petit journal sur Canal+? Quoi qu'il en soit, le chef de l'État vient de faire la preuve une fois de plus du degré zéro de la culture. Qu'est-ce que l'amitié? En politique, pas grand-chose. C'est ce que doit amèrement penser Brice Hortefeux, qui n'a plus de nouvelles de son ami de 30 ans, Nicolas Sarkozy, depuis qu'a été publié le verbatim de ses conversations avec Thierry Gobert, soupçonné dans l'affaire de Karachi. Après la défaite de la droite au sénatorial et le basculement historique à gauche de la haute chambre, chacun essaye d'analyser la situation. Le sénateur UMP, Serge Dassault, pense que c'est à cause des nombreuses listes dissidentes à droite. Et de pointer du doigt la faute de la parité, qui aurait empêché nombre de sénateurs sortants d'être en position éligible dans leur parti, ben oui. Il propose donc d'organiser différemment la parité. Au lieu d'alterner entre un homme et une femme, c'est trop classique, il conviendrait selon lui de placer en tête de liste deux hommes, puis en troisième et quatrième position, deux femmes. Une question, Serge Dassault est-il mauvais joueur ou simplement bête et sexiste, bêtement sexiste ? Finissons par la très amusante une du Canard enchaîné du 5 octobre 2011. Borloo se couche, Carla accouche, c'est la semaine des dégonflés. Président, c'est également rire, car comme le disait Beaumarchais, je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Pour cela, rien de mieux que le billet d'humeur et d'humour d'Antoine Jaya.
Merci Thomas. Et aujourd'hui, pour cette première émission, je voudrais vous parler justement d'humour, d'humanisme et de démocratie. L'humour parce qu'il rend nos journées moins grises, nos mines plus aimables. L'humanisme et la démocratie parce qu'ils sont et seront à coup sûr au cœur de la campagne présidentielle que nous allons suivre avec vous. Bref, humour, humanisme, démocratie, vous l'aurez compris, chers auditeurs, je veux vous parler de Claude Guéant. Ah non, nulle ironie dans mes propos. Je pense, et je le prouverai, que Claude Guéant est un humoriste incompris. Un artiste, en somme. Bon, c'est vrai, au début je ne l'avais pas remarqué, je l'avoue. Mais là, j'ai revu mon jugement du tout au tout. Bon, vous avez tous entendu parler de l'affaire Copwatch, ce site qui référencie les bavures policières afin de surveiller les éventuelles forces de l'ordre qui, parfois, se laisseraient un peu aller et, oubliant la loi qu'ils sont censés faire respecter, auraient un peu la main leste. Alors loin de moi l'idée de prendre parti pour ou contre ce site, mais ce qui constitue le sel de l'affaire, c'est la déclaration de Claude Guéant qui porte plainte contre le site en déclarant solennellement « Ces commentaires portent gravement atteinte à l'honneur et à la réputation de fonctionnaires de police et de militaires de la gendarmerie. » C'est drôle, non ? Ah bon, vous ne comprenez peut-être pas la blague. En fait, à 7 mois des présidentielles, l'UMP veut renouer avec l'électorat policier qui avait massivement soutenu Nicolas Sarkozy en 2007. Mais voilà que débarque le comique de situation. Car au même moment, la police est tout entière ébranlée par la mise en examen pour corruption et trafic de drogue du commissaire Néré, numéro 2 de la police, dans notre bonne vieille ville de Lyon. Du coup, Claude Guéant entend restaurer l'honneur de la police en s'opposant à un site qui assimile policiers et délinquants. Pile au même moment, les médias rappellent au peuple qu'il y a des délinquants parmi les policiers. C'est vraiment pas de chance. C'est un peu comme un entraîneur de football qui, le lendemain d'une dérouillée sévère de son équipe, irait vanter les incroyables progrès de ses joueurs. Voire même, mais cela ne se peut, comme quelqu'un qui rappellerait à quel point la technologie récente a rendu l'atome sûr le lendemain d'une catastrophe nucléaire majeure. Ou comme un ultralibéral qui viendrait faire la promotion des subprimes le lendemain d'une grave crise financière mondiale. Parce que du style dire la vérité, leur discours serait tout de même peu à même d'emporter la foi. Et peut-être passerait-ils pour des humoristes. Alors si ça se trouve, Claude Guéant va même obtenir l'effet inverse et l'on verra éclore sur le web le site Politics Watch pour surveiller les hommes politiques. J'imagine d'ici le préambule de leur site. Nous sommes un collectif de citoyens souhaitant lutter par la transparence et l'information contre les violences politiques. Nous appelons les autres citoyens à nous aider et à dénoncer tout manquement à la loi et à l'éthique de la part de nos représentants politiques. Filmez, enregistrez et postez sur Facebook tout homme politique en flagrant délit de mensonge, de démagogie ou de réception de valises remplies de billets de banque. Tout copinage de la part des élus avec des milliardaires que l'âge rend influençables ne doit pas être interdit, mais surveillé de près, afin qu'il n'y ait aucune zone d'ombre dans la liste des financements des campagnes électorales. Filmez tout chef d'État qui, ayant abusé de boissons, ne serait plus à même de représenter son peuple lors d'une grande réunion internationale. Enfin, dans le cas où des dirigeants politiques se filmeraient eux-mêmes à leurs dépens, par exemple en train de danser et de chanter en playback sur une chanson idiote, considéraient le travail comme déjà fait, et inutile d'en rajouter. Merci, vive la République impartiale, et vive la France.
Oui, vive la France. Notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec Dominique Perben pour parler justice. Sur Transistor, d'ici là, n'hésitez pas à découvrir toute la grille et notamment à écouter la première émission de LMNSP saison 3 consacrée à la peine de mort. Juste avant de vous quitter, je voudrais souligner la gentillesse sans nom d'un grand homme, Stéphane Hessel. Je l'avais contacté pour lui demander de participer à Présidence par lettre grâce à sa maison d'édition qui m'avait communiqué ses coordonnées. Il m'a appelé lui-même sur mon portable pour féliciter toute l'équipe de Présidence et la radio Transistor pour notre projet, nous souhaiter bonne chance et, hélas, décliner l'invitation. Mais tout de même, un grand merci à ce gentleman indigné. Et vous qui nous écoutez d'ici 2 semaines, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.